Il y a en France 6 agences de l'eau. À quoi servent les agences de l'eau en France et surtout comment sont-elles financées ?
Alors les agences de l'eau, ce sont des établissements publics de l'État sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. On est organisé par grands bassins versants. Donc ici, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse recouvre tout le territoire qui est le bassin versant français de la Méditerranée, toutes les eaux françaises qui vont vers la Méditerranée, donc le bassin du Rhône, les fleuves côtiers languedociens, provençaux et la Corse. Et sur ce territoire, sur son territoire, chaque agence de l'eau prélève des redevances qui sont des taxes, hein, qui ont un statut d'impôt et qui sont l'application du principe pollueur-payeur. C'est-à-dire plus on pollue l'eau, plus on paye de redevances à l'agence de l'eau, ou plus on prélève d'eau, plus on consomme d'eau, plus on paye de redevances à l'agence de l'eau. Et avec l'argent ainsi collecté, les agences de l'eau vont financer les projets qui vont vers le bon état des eaux, qui servent à la reconquête du bon état des eaux.
Que dire pour la quantité ? Parce que là, on voit, et ce n'est pas le premier été, des camions-citernes alimenter des communes en France.
Alors, la quantité, ça fait partie des critères du bon état. Le bon état des eaux, c'est trois grandes composantes. C'est à la fois la qualité de l'eau, c'est-à-dire il faut lutter contre la pollution. C'est la quantité d'eau. Il faut réussir à partager la ressource en eau de manière équilibrée, à la fois entre les différents usages, dont évidemment l'eau potable, et les milieux, pour qu'il y ait suffisamment d'eau dans les rivières. Et c'est aussi le bon état écologique. Il faut que les milieux, les écosystèmes aquatiques, les zones humides, le littoral, etc., fonctionnent bien de manière naturelle. C'est ça le bon état. C'est la qualité, la quantité et l'écologie. Et évidemment, les enjeux de quantité d'eau deviennent de plus en plus prégnants avec le changement climatique. Le changement climatique, c'est d'ores et déjà, maintenant, on le voit, de plus en plus chaud l'été. S'il fait plus chaud l'été, ça veut dire que l'eau, elle s'évapore plus. Ça veut dire que les plantes, elles vont en consommer plus, elles vont transpirer davantage. Ça veut dire aussi, souvent, la pluviométrie, on constate qu'actuellement, on a des épisodes pluvieux, le cas échéant catastrophiques, intenses, qu'on connaît bien sur le pourtour méditerranéen, avec des morts, la tempête Alex encore en début d'année, mais aussi des périodes de sécheresse plus longues, plus fréquentes, plus intenses. Et puis on a aussi la baisse de l'enneigement hivernal, ce qui atteint la ressource en eau. Parce que quand il neige, ça va fondre, quand il neige l'hiver, ça va fondre au printemps et en début d'été, donc ça va alimenter les cours d'eau au moment où ils n'ont pas beaucoup d'eau. Alors que si cette pluviométrie, avec le réchauffement, elle tombe plutôt l'hiver sous forme de pluie, elle va ruisseler, elle ne servirait pas au soutien d'étiage au moment du printemps ou début d'été. Donc tout ça fait qu'effectivement, les enjeux de quantité d'eau deviennent maintenant encore plus aigus qu'ils ne l'ont jamais été.
J'imagine que vous avez une stratégie qui change, parce que comment préserver l'eau pour les générations futures ?
C'est à la fois au niveau très général, sur le grand bassin versant de la Méditerranée, on fait ce qu'on appelle un SDAGE, un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui est tous les 6 ans, et là il se trouve qu'on est en train d'en finaliser un, qui doit être opérationnel pour 2022, pour la période 2022-2027. Et donc, quels sont les grands principes qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre le bon état dans ces trois composantes, la qualité, la quantité, les milieux. Et plus précisément, pour ce qui concerne les problèmes de quantité, on a développé un outil depuis maintenant 5-6 ans sur le bassin Rhône-Méditerranée, qui est l'outil plan de gestion de la ressource en eau, PGRE. On en a déjà fait 60 sur le bassin Rhône-Méditerranée, dont les principes sont les suivants. Sur un bassin versant, sur un secteur où la ressource est déficitaire ou en tension, tout le monde autour de la table, tous les acteurs, à la fois les agriculteurs pour l'irrigation, les associations, les pêcheurs, les collectivités, les services de l'État, tout le monde autour de la table, tout le monde partage un diagnostic technique. Qu'est-ce que la ressource en eau peut donner ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir donner à l'avenir avec le changement climatique ? Quels sont les besoins des différents usages? Comment ces besoins vont évoluer avec le changement climatique? Et sur cette base-là, un plan d'action qui commence par des économies tous azimuts. Il faut lutter contre les gaspillages, lutter contre les pertes dans les réseaux d'eau potable, faire évoluer les techniques d'irrigation pour qu'elles soient moins consommatrices d'eau, développer des modes, des itinéraires de culture qui soient plus économes en eau aussi, privilégier le recyclage de l'eau quand c'est possible, réutiliser l'eau traitée pour les usages qui le permettent, plutôt que de pomper toujours davantage dans la ressource, développer les solutions fondées sur la nature, les zones humides par exemple. Les zones humides ont un rôle important pour stocker l'eau quand il y en a et la relarguer quand il n'y en a pas. Toujours les solutions fondées sur la nature, on peut citer la désimperméabilisation, laisser l'eau s'infiltrer dans les sols pour que ça recharge les eaux souterraines plutôt que l'eau ruisselle et s'en aille. Bref, tout un panel de solutions qui va permettre de revenir à l'équilibre. Et ça passe vraiment par la mobilisation de tous sur les territoires.
Il y a les rivières, ça fait partie de notre vie, c'est dans les paysages. D'abord, dans quel état elles sont nos rivières? Est-ce qu'il y a une bonne qualité d'eau dans nos rivières et donc de la vie dans nos rivières?
Il y a des progrès et il reste à faire. La directive cadre sur l'eau nous impose un objectif de 100% de bon état pour tous les cours d'eau, pour toutes les masses d'eau. On est environ à la moitié. On est environ la moitié des cours d'eau, des masses d'eau qui sont actuellement en bon état. On a progressé en matière de qualité parce que les pollutions qui étaient autrefois beaucoup relarguées par les agglomérations, il y avait encore beaucoup d'agglomérations qui, il y a 20-30 ans, envoyaient les pollutions, les eaux usées urbaines sans traitement dans les rivières ou dans la mer. Donc ça, maintenant, en règle générale, il y a des systèmes d'assainissement qui fonctionnent.
Mais alors, les systèmes d'assainissement, est-ce qu'ils sont tous égaux? On a à Marseille et dans les communes environnantes cette géolide gigantesque. Est-ce qu'il ne faut pas viser le petit?
Mais ça dépend où et ça dépend comment. C'est-à-dire, le géolide est un bel outil qui fonctionne bien et qui atteint des bons résultats d'épuration. Après, quand vous êtes dans des secteurs à urbanisation moins dense, on a toute une série de techniques qui permettent aussi d'assainir les eaux usées de petites agglomérations. Donc vraiment, il y a une combinaison de solutions qui permet de traiter les effluents de manière efficace. Et on a beaucoup progressé dans la mise en œuvre, même si tout n'est pas fait. Donc sur ce type de pollution, on a progressé. Les grandes pollutions industrielles ont aussi considérablement régressé, avec des efforts d'assainissement considérables. Par contre, il reste un enjeu majeur de qualité qui sont les substances chimiques, qui sont les multiples substances chimiques diffuses qui se rejettent dans les milieux. Ça peut être les plastiques et les microplastiques, ça peut être les pesticides sur les terres agricoles, ça peut être les médicaments, humains ou vétérinaires d'ailleurs, ça peut être toute une série de substances qui sont produites dans les cosmétiques. Bref, il y a énormément de substances chimiques, des milliers, qui vont vers les milieux. Et ça, c'est encore un défi qui est devant nous en termes de qualité.
Oui, mais alors justement, est-ce que vous ne pouvez pas soutenir des actions, par exemple la surveillance des berges qui ne sont pas l'objet d'épandages agricoles? Il y a des personnels qui surveillent les berges?
Alors, il y a des services de police de l'eau, tout d'abord. C'est l'Office français de la biodiversité, notamment, qui en est en charge, ainsi que les services de l'État autour des directions départementales des territoires. Il y a des structures de gestion des cours d'eau, des syndicats de rivières, qui sont en charge du bon fonctionnement des rivières, de la bonne gestion des rivières. Ceci est d'ailleurs bien structuré dans une région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a un bon réseau des gestionnaires des milieux naturels aquatiques, des rivières, des bassins versants. Donc ça, on a pas mal de choses qui sont en place. Mais sur les substances, il faut faire plus. Il faut faire plus et c'est pas facile parce que comme c'est du diffus, ça concerne en fait un peu tout le monde et le comportement de tout le monde. Donc certainement, il faut agir en direction du monde agricole, par exemple, pour accompagner des évolutions des pratiques agricoles moins polluantes. Mais tout le monde est concerné par l'usage qu'il fait de ces produits chimiques. Et là, il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour progresser.
Le consommateur, par exemple pour les plastiques, le consommateur, il peut réduire sa consommation de plastique. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore de plastique?
Alors, il y a aussi une action normative, et la France est plutôt en avance en la matière. La France a pris des actions courageuse, je pense, d'interdiction d'abord des sacs plastiques. Alors, rappelons-nous qu'à une époque pas si lointaine, il y avait des multitudes de sacs plastiques à chaque fois qu'on allait faire ses courses. Donc d'abord d'interdiction des sacs plastiques, ensuite d'interdiction de tous les matériaux plastiques à usage unique, les fourchettes en plastique, les pailles, tout ce genre de choses qui peuvent se retrouver, les gobelets. Donc il y a un gros effort normatif pour réduire. On peut encore aller plus loin, en développant d'ailleurs probablement aussi des plastiques de nouvelle génération qui se décomposeront plus facilement, qui se dégraderont. Donc il y a encore à faire. Mais la norme, oui, elle accompagne cette évolution.
Dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire au public qu'il faut payer davantage? Mais il n'y est pas prêt.
Je ne sais pas si sûr, ça. C'est toute une question sur la production agricole. Je pense qu'une bonne partie des consommateurs, à condition bien entendu de le pouvoir financièrement, mais sont prêts. Actuellement, dans le panier du consommateur, les produits strictement alimentaires représentent une proportion assez faible dans le panier du consommateur. Il y a bien d'autres biens qui sont achetés. Sur cette partie-là, le fait de pouvoir payer un peu plus pour une production agricole plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de la santé, de proximité locale, je pense qu'il y a des pistes là-dessus. Mais tout ne passe pas non plus par le consommateur. Le consommateur a son rôle à jouer. Mais là aussi, l'accompagnement, travailler avec les territoires pour les inciter à, sur les bassins versants de leur captage, par exemple, mettre en place une politique en faveur de la transition agricole, ça fait aussi partie de la solution.